Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Donald Tusk réélu à la présidence du Conseil européen. Seul son pays, la Pologne, a voté contre lui. Le reportage d'Isabelle Labéry à Bruxelles dans un instant. Le groupe franco-suisse Lafarge-Holcim veut vendre son ciment à Donald Trump pour la construction du mur anti-immigré à la frontière mexicaine. Malgré les critiques en France, Lafarge se place pour participer au chantier du nouveau président américain. Les explications de notre correspondant à Washington, Frédéric Carbone. La campagne présidentielle en France. François Fillon ouvre son équipe aux sarkozystes qui l'ont soutenu dans la tempête judiciaire. Nous verrons cela avec Stéphane Robert. Invité de ce journal, le député européen FN Édouard Ferrand, conseiller de Marine Le Pen pour les questions agricoles. Il n'était pas soutenu par son propre pays, mais le Polonais Donald Tusk a finalement été réélu aujourd'hui à la présidence du Conseil européen lors du sommet de Bruxelles. Les conservateurs au pouvoir à Varsovie ne voulaient pas de leur compatriote libéral, mais Donald Tusk avait le soutien de tous les autres pays de l'UE et la Pologne a donc perdu son bras de fer. On retrouve à Bruxelles Isabelle Labéry.
À son arrivée sur le tapis rouge, la première ministre polonaise s'avance d'un pas décidé droit vers les journalistes qui l'interpellent. Nous ne sommes pas d'accord avec la nomination de Donald Tusk et rien ne doit être fait sans nous, répète Beata Szydło. Varsovie reproche entre autres au président du Conseil européen d'avoir trop ouvertement critiqué les réformes engagées dans son pays contre les médias ou la justice.
Eh ben on en prend note.
Réaction de Xavier Bettel, le premier ministre luxembourgeois.
Il y a la procédure qui prévoit qu'on n'est pas obligé d'avoir un vote unanime. Moi je ne suis pas otage du gouvernement polonais.
Dans une belle unanimité contre Varsovie, les dirigeants européens ont donc choisi de renouveler Donald Tusk. Question de cohérence et de continuité, dit François Hollande.
Je ne vois pas comment un pays pourrait s'opposer à cette solution dès lors que tous les autres y sont favorables. Et dans le moment que nous traversons, avec une Europe qui doit affirmer son unité, il y a toute raison de confirmer ici la nomination de Donald Tusk.
Seul contre tous, que la Pologne a donc perdu son bras de fer, mais réactivé de profondes divergences que l'Europe aurait préféré dissimuler.
Isabelle Labéry, la première ministre polonaise Beata Szydło, n'a pas tardé à exprimer sa colère. « Je n'accepterai pas les conclusions du sommet de Bruxelles », a-t-elle déclaré après avoir échoué à barrer la route à Donald Tusk. Le président réélu, lui, a exhorté son pays, la Pologne, à ne pas couper les ponts avec l'Union européenne. « Une fois qu'ils sont coupés, vous ne pourrez plus jamais les emprunter », a ajouté Donald Tusk dans une formule présentée comme un proverbe dédié à tous les États membres de l'UE. Y aura-t-il du ciment français dans le mur que Donald Trump veut construire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique? C'est en tout cas l'ambition du PDG du groupe franco-suisse Lafarge-Holcim. Eric Olsen, qui est américain, s'est dit prêt à fournir les matériaux nécessaires pour construire le fameux mur. Une perspective qui inquiète Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, en appelle à la responsabilité de Lafarge-Holcim. Le groupe doit réfléchir avant de vendre son ciment à Donald Trump. Voilà ce qu'a dit le ministre ce matin sur France Info. Alors pourquoi le groupe s'intéresse-t-il à un projet aussi controversé? Élément de réponse avec Frédéric Carbone à Washington.
Pour un groupe comme Lafarge, le mur avec le Mexique, c'est presque l'arbre qui cache la forêt. D'autres contrats potentiels, moins contestables moralement et peut-être plus intéressants financièrement. La perspective essentielle, c'est en effet le grand plan d'infrastructure de Donald Trump, les 1000 milliards de dollars envisagés pour reconstruire des ponts, des routes, pourquoi pas des stades, autant de chantiers prioritaires pour un cimentier. Lors du forum de Davos, le PDG de Lafarge se disait ainsi très encouragé par les projets du président des États-Unis. Tout cela ne sera peut-être jamais financé par le Congrès, mais en attendant, Eric Olsen adopte la posture du bon élève de la classe des patrons. Il promet des créations d'emplois dans les mois qui viennent et il assure que tout sera produit à partir d'usines installées aux États-Unis. Pas question donc, comme un rival irlandais, de dire oui aux belles routes mais non aux murs si contestés. Et voilà comment l'entreprise française se retrouve parmi les favoris avec un cimentier installé, ça ne s'invente pas, au Mexique.
Frédéric Carbone, notre correspondant aux États-Unis. Et ce soir, c'est François Hollande qui met en garde Lafarge. Il faut être prudent avant de se porter candidat à la construction du mur de Trump, a dit le président français en marge du sommet de Bruxelles. L'Amérique de Trump qui commence à montrer les muscles militaires dans le conflit syrien. Les Américains vont envoyer 400 soldats supplémentaires dans la région de Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie. Ils vont épauler les forces démocratiques syriennes, une alliance de soldats kurdes et arabes bien placés pour reprendre la ville de Raqqa. Il y a d'ores et déjà sur le terrain plusieurs dizaines de soldats américains des forces spéciales. La guerre en Syrie qui reste meurtrière pour les civils. Eric Biegala, une vingtaine de personnes ont encore été tuées la nuit dernière dans un raid aérien.
C'est un bombardement important qui a été lancé en pleine nuit hier et dans une zone, la vallée de l'Euphrate, au sud-est de Raqqa, où seules opèrent les forces démocratiques syriennes emmenées par les Kurdes et appuyées par les avions de la coalition internationale. Pour le moment, le quartier général de cette même coalition ne confirme aucune opération aérienne dans ce secteur, mais il y a tout de même de fortes chances que ce soit ces avions ou ces drones qui sont à l'origine de ces tirs. Que visaient-ils en pleine nuit dans le petit village d'Al-Matab sur la rive nord de l'Euphrate? Certes, c'est une zone contrôlée par l'État islamique, mais encore largement peuplée de civils. Peut-être un bâtiment considéré comme un poste de commandement des djihadistes. Reste que les deux collectifs d'activistes syriens disposant de contacts sur ce terrain-là, Raqqa is being silently slaughtered et l'Observatoire syrien des droits de l'homme, donnent chacun un bilan très lourd. 20 morts civiles pour le premier, 23 pour le second, dont au moins 6 femmes et 8 enfants. Ce ne serait pas la première fois que des tirs d'avions de la coalition entraîneraient des morts civiles en Syrie ou en Irak d'ailleurs. Depuis le début de ces opérations dans ces deux pays, en 2014, la coalition reconnaît 200 morts civiles, dommages collatéraux de frappe contre Daesh. Le collectif Air Wars, pour sa part, qui recense et tente de croiser les informations recueillies sur le terrain pour chacun de ces tirs problématiques, donne un bilan beaucoup plus lourd. Selon son décompte, il y aurait eu en 2 ans et demi au moins 2543 victimes civiles des avions de la coalition en Syrie et en Irak.
Eric Biegala, merci. Par ailleurs, l'armée américaine demande à l'administration Trump des renforts en Afghanistan. 8400 soldats américains sont aujourd'hui déployés dans le pays en proie aux attaques des talibans et de l'État islamique. Venons-en à la campagne présidentielle en France. François Fillon a présenté aujourd'hui sa nouvelle équipe de campagne après les défections de la semaine dernière. Un constat s'impose, le candidat de la droite a fait de la place, beaucoup de place pour accueillir les sarkozystes. Il faut dire que Nicolas Sarkozy s'est beaucoup démené ces derniers jours pour sauver le soldat Fillon empêtré dans son calendrier judiciaire. Alors Stéphane Robert, que faut-il retenir de cette nouvelle équipe ?
La tentative de remplacement de François Fillon par Alain Juppé il y a quelques jours a considérablement éclairci les rangs dans l'équipe de campagne. Suite à l'annonce de la probable mise en examen de François Fillon mercredi dernier, les juppéistes ont été les premiers à faire mouvement, suivis par les lemairistes ainsi que par un certain nombre de fillonistes comme Bernard Accoyer et Gérard Larcher, président du Sénat. Seuls les sarkozystes, sans doute sur ordre du patron, sont fidèlement restés aux côtés du vainqueur de la primaire à droite. Et en toute logique, ce sont eux qui arrivent aux avant-postes de l'équipe de campagne remaniée du candidat Fillon. François Barouin, maire de Troyes et président des maires de France, est chargé du rassemblement et devient ainsi l'un des hommes clés de l'équipe Fillon. Et ce matin, à l'occasion de la réunion organisée avec les centristes de l'UDI, Barouin était assis à la droite de Fillon, tandis que sur sa gauche se trouvait le fidèle d'entre les fidèles, Bruno Retailleau. Le nouveau porte-parole est encore un sarkozyste, Luc Châtel, et puis autre sarkozyste, Christian Jacob, nommé coordinateur de la campagne. On annonce également Laurent Wauquiez à la tête du parti pour remplacer Bernard Accoyer, même si ça ce n'est pas encore confirmé. Et puis d'autres nominations sont attendues la semaine prochaine de fidèles fillonistes comme Jérôme Chartier et Valérie Boyer devraient se voir confier des responsabilités. En même temps, c'est normal que la réorganisation soit difficile, explique un membre de l'équipe Fillon. Cette vague de départ la semaine dernière, ça a été terrible. Il n'y avait plus personne au QG. Déjà avant, ça flottait un peu. Alors là, on est complètement noyé. Et François Fillon ne pardonne pas facilement, poursuit ce fidèle filloniste. Ça n'a pas changé. Et ça peut se comprendre. Humainement, ce qu'il a vécu, ce n'est pas facile. Et puis, de toute façon, il a toujours été comme ça. Fillon, poursuit-il, il fonctionne en vase clos avec sa caste. Toute la difficulté est donc qu'il va devoir élargir ses soutiens et rassembler la famille. Mais pour ça, il devra forcer sa nature.
Stéphane Robert, merci. Du côté du Front National, Marine Le Pen était dans le Gers aujourd'hui à la rencontre d'agriculteurs. Les sondages donnent Marine Le Pen en tête du vote agricole devant François Fillon. Invité de ce journal, Édouard Ferrand, député européen du Front National, spécialiste de l'agriculture auprès de la candidate FN. Bonsoir.
Bonsoir.
Édouard Ferrand, une question d'actualité. Tout d'abord, deux ambassadeurs, et non des moindres, viennent de s'exprimer publiquement contre Marine Le Pen. Thierry Dana, en poste à Tokyo, et Gérard Haro, son collègue de Washington. Est-ce que ça vous inquiète, ces prises de position hostiles à votre candidate venant du corps diplomatique ?
Écoutez, pour être direct, si Mme Le Pen est élue, la politique qu'elle mènera ne sera pas, comme ils veulent bien le dire, celle du Front National, mais ce sera celle de la France, tout simplement. Et je pense que si ces hauts fonctionnaires, ces grands diplomates ont des prises de position, elles sont plus des prises de position politiques et qui desservent l'institution de cette grande diplomatie qu'est le Quai d'Orsay. Et à mon avis, c'est plutôt eux qui se discréditent. Cependant, puisqu'ils ont l'air de vouloir quitter leur poste, je les invite, parce que ce sera plus honnête de leur part, d'anticiper cette décision et de quitter immédiatement le service public, parce que en prenant parti comme ils le font dans la campagne présidentielle, moi je trouve qu'ils enfreignent le devoir de réserve et le devoir d'indépendance qui s'impose notamment normalement à tout diplomate.
Parmi les critiques de ces ambassadeurs, il y a la volonté de Marine Le Pen de sortir de l'Union européenne. Ce projet reste au cœur de l'offre politique du Front National ?
Écoutez, je crois qu'aujourd'hui l'Union européenne se fait contre les peuples. On le voit bien, il y a une montée des populistes partout en Europe et qu'il faut s'interroger. Et je pense que l'Union européenne ne représente plus l'aspiration des peuples européens. Aujourd'hui, toute la politique européenne de l'Union européenne de messieurs Juncker, Merkel et Tusk tourne autour du Front National. Et c'est vrai que c'est un vrai problème, un problème légitime. Et d'ailleurs, monsieur Juncker, qui vient de sortir son livre blanc, l'a affirmé, il y a un problème à l'Union européenne, l'Union européenne est en panne. Donc c'est normal que Marine, la candidate aujourd'hui qui a le plus de suffrages dans les sondages, soit soutenue par un certain nombre de Français. Moi je pense qu'il faut respecter les souhaits des Français qui veulent certainement un véritable changement politique et un changement européen. Et Marine Le Pen a dit qu'elle procéderait par référendum. Donc en consultant le peuple, elle ne fera pas ça de son propre chef.
Édouard Ferrand, vous êtes spécialiste des questions agricoles. Pour vous, la PAC, la politique agricole commune de Bruxelles, est un échec ?
Bien sûr que c'est un échec. Malheureusement, aujourd'hui, les agriculteurs sont des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, ne vivent plus de leurs revenus. La France, ce grand pays agricole, première puissance agricole européenne, eh bien, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui elle retrouve sa souveraineté agricole, son patriotisme économique, et qu'il faut sortir de cette politique agricole commune pour pouvoir redonner un espoir à l'agriculture française.
Et pourtant, de nombreux agriculteurs ont besoin de la PAC pour avoir un revenu décent.
Mais, cher monsieur, la PAC, c'est simplement la transformation d'un versement de 21,5 milliards d'euros chaque année de la France pour sa contribution à l'Union européenne. Donc, il s'agit simplement de franciser cette PAC. Il faut franciser les aides, il faut sortir des aides de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, les aides de l'Union européenne sont des aides à l'hectare, et que nous, on veut restructurer les filières, c'est-à-dire sortir des aides découplées, revoir les relations entre éleveurs, transformateurs, grande distribution. Vous savez, à travers nos paysans, c'est notre pays et son identité qui sont attaqués aujourd'hui. Le monde paysan souffre, je l'ai vu en accompagnant Marine Le Pen dans son agriculture. Il y a eu un accueil triomphal, mais il faut aujourd'hui soutenir le monde agricole. Et pour soutenir le monde agricole, il faut que nous administrions nous-mêmes les fonds de la France.
Édouard Ferrand, quel est le modèle agricole que vous préconisez au Front National ? La petite ou la grande exploitation ?
C'est un modèle agricole, familial, indépendant, autonome, de polyculture. Le modèle actuel, c'est-à-dire un modèle sur 50 hectares qui vise à pérenniser des exploitations familiales et à promouvoir le savoir-faire et la qualité française. L'agro-industrie telle que nous la présentent les États-Unis ou l'Allemagne est un modèle dangereux à la fois sur le plan environnemental et sanitaire, mais au-delà de tout ça, il faut faire vivre nos campagnes et la ruralité, c'est l'excellence justement des produits du terroir avec les AOP et les IGP, tous ces labels que le monde entier nous envie, et donc défendons justement ce modèle familial français.
L'agriculture bio, c'est important pour le Front National ?
Bien sûr que c'est important. Nous soutenons l'agriculture bio. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le programme agricole du Front National et le bio aussi, c'est ce que vous voulez me demander. Le bio est une composante essentielle et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs traditionnels qui se tournent vers le bio parce qu'ils n'arrivent plus à vivre décemment de l'agriculture traditionnelle. Mais l'État ne suit pas, les subventions ne suivent pas. Et ces agriculteurs se retrouvent malheureusement avec des grandes difficultés financières. Le bio, néanmoins, ne peut pas se produire partout. Il y a des zones où il faut rester sur des modèles plus traditionnels, mais je pense que la tendance et la volonté, c'est d'avoir des circuits courts, de connaître l'origine des produits, d'avoir moins d'intrants, et nous soutenons bien évidemment le développement du bio en parallèle de l'agriculture traditionnelle.
Édouard Ferrand, député européen du Front National, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. La météo demain, des nuages sur les trois quarts du pays, avec des petites pluies sur la moitié nord avant le retour d'éclaircies dans l'après-midi. Il fera beau dès le matin sur l'extrême sud des Pyrénées aux régions méditerranéennes. Les températures maximales seront très douces, de 11 à 17 degrés au nord, 16 à 25 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.